Chapitre 10. Nekhludov avait encore 2 heures à attendre jusqu'au départ du train qui devait le conduire à Nijni Novgorod. La pensée lui vint tout d'abord de profiter de ce temps pour aller revoir sa sœur. Mais les impressions de la matinée l'avaient tant ému et fatigué qu'il ne se sentait plus la force de bouger. Il entra dans la salle d'attente, s'assit sur un canapé, et là, au bout d'un instant, il s'endormit, la tête appuyée sur un coussin. Il dormait depuis plus d'une heure lorsqu'un bruit de chaise le réveilla en sursaut. Il se redressa, se frotta les yeux, se rappela où il était et revit les scènes diverses auxquelles il venait d'assister. Il revit le convoi des déportés, les 2 hommes morts, les wagons aux fenêtres grillées et les femmes enfermées dans ces wagons, et le triste sourire que lui avait adressé Katyusha à travers les barreaux. Le spectacle qu'il avait en face de lui était bien différent de ses souvenirs. Une table chargée de bouteilles, de vases, de flambeaux et de fleurs, des garçons en habit sommeillant autour de la table, et dans le fond de la salle, devant un comptoir également encombré de bouteilles et de vases, des dos de voyageurs achetant des provisions. Quand il eut achevé de reprendre ses sens, Nekhludov observa que toutes les personnes assises dans la salle considérait avec curiosité quelque chose qui était en train de se passer devant la porte d'entrée. Tournant les yeux de ce côté, il vit un groupe d'hommes qui portaient sur une chaise une dame toute couverte de châle. Le premier des porteurs était un valet de chambre. Nekhludov se souvint aussitôt de l'avoir déjà vu, et il reconnut également l'homme qui marchait derrière la chaise, un portier en livrée avec une casquette galonnée. Près de la chaise se tenait une élégante femme de chambre portant un sac de voyage, un certain objet rond dans un étui de cuir et plusieurs ombrelles. Et Nekhludov aperçut de l'autre côté, en tenue de voyage, le vieux prince Korchagin, avec ses lèvres épaisses et son coude apoplectique. Missy était là aussi, et son frère Mitya, et un jeune diplomate bien connu de Nekhludov, le comte Osten, possesseur d'un cou interminable et d'un petit visage toujours souriant. Osten causait avec Missy, qui semblait s'amuser beaucoup de ses plaisanteries. Et Nekhludov vit aussi le médecin, fumant sa cigarette avec son air habituel de mauvaise humeur. Cet imposant cortège ne faisait que traverser la grande salle pour se rendre dans le petit salon réservé aux dames. Il s'attira sur son passage une curiosité mêlée de respect. Mais dès l'instant suivant, le vieux prince revint dans la salle, s'assit devant la table, appela un garçon et lui donna des ordres. Puis Missy et Osten arrivèrent à leur tour, et tous deux allaient également s'asseoir près de la table, lorsque Missy aperçut à l'entrée une personne de connaissance et courut à sa rencontre. Cette personne était Nathalie Ivanovna, la sœur de Nekhludov. S'avançant en compagnie d'Agrippine Petrovna, elle tournait les yeux de tous côtés, en quête de quelqu'un. Elle vit en même temps son frère et Missy. Et comme Nekhludov s'était approché d'elle, elle lui dit, après avoir serré la main de la jeune fille, « Enfin je te trouve, je commençais à me décourager. » Nekhludov serra les mains de Missy et d'Osten, embrassa sa sœur, et l'on se mit à causer. Missy raconta que leur maison de campagne avait brûlé, ce qui les obligeait à aller passer quelques semaines chez une tante qui demeurait sur la ligne de Nijni Novgorod. Osten, à ce propos, raconta gaiement des histoires d'incendie. Mais Nekhludov, sans l'écouter, se tourna vers sa sœur. « Comme je suis heureux que tu sois venu. »« Je te cherche depuis 2 heures, » dit-elle. « Avec Agrippine Petrovna, nous avons exploré toute la ville, sans pouvoir mettre la main sur toi. » Elle désigna d'un mouvement de tête la grosse gouvernante, qui, vêtue d'un waterproof et coiffée d'un chapeau à fleurs, se tenait modestement un peu à l'écart pour ne pas gêner la conversation. « Figure-toi que je me suis endormi ici, sur un canapé. « Comme je suis heureux que tu sois venu, » répéta-t-il. « J'avais précisément commencé une lettre pour toi. « Vraiment ? » demanda-t-elle d'un air inquiet. « Et que m'écrivais-tu ? » Missy, voyant que le frère et la sœur commençaient un entretien intime, crut devoir s'éloigner avec son cavalier. Nekhludov conduisit sa sœur près de la fenêtre. Ils s'assirent sur un banc de velours vert, où se trouvaient déposés une valise, un plaid et un carton à chapeau. « Eh bien oui, hier, en sortant de chez vous, j'ai pensé à revenir sur mes pas pour faire les excuses à ton mari, » dit Nekhludov. « Mais j'ai craint qu'il ne prît mal la chose. J'ai été méchant hier pour ton mari, et cela me tourmente. Je savais, j'étais sûr que tu n'avais pas eu de mauvaises intentions, » répondit Nathalie Ivanovna. « Tu sais que... » Et des larmes lui montèrent aux yeux, et elle étreignit fiévreusement la main de son frère. Nekhludov comprit aussitôt le sens de la phrase qu'elle n'avait pas achevée. Elle voulait dire que, tout en aimant son mari plus que le monde entier, elle l'aimait bien aussi, lui, son frère, et que toute division entre eux la faisait cruellement souffrir. « Merci, je te remercie. »« Ah, si tu savais ce que j'ai vu aujourd'hui, » reprit-il, se rappelant soudain les deux prisonniers morts. « Deux hommes tués. Comment cela, tués ?»« Tués, oui, certainement. » On leur a fait traverser toute la ville par cette chaleur, et deux d'entre eux sont morts d'insolation. Impossible. Comment? Aujourd'hui, tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. J'ai vu leurs cadavres. Mais pourquoi les a-t-on tués? Qui les a tués? Demanda Nathalie Ivanovna. Qui? Ceux-là qui les ont fait marcher de force, sous ce soleil, répliqua Nekhludov d'un ton agacé, sentant que sa sœur considérait tout cela d'un autre œil que lui. « Seigneur Dieu, est-ce possible ?» demanda Agrippine Petrovna, qui n'avait pu s'empêcher d'écouter. « Oui, nous n'avons pas la moindre idée de ce que l'on fait subir à ces malheureux. Et cependant, nous aurions le devoir de nous en informer, » poursuivit Nekhludov en tournant involontairement les yeux sur le vieux prince, qui, une serviette au cou, se bourrait de jambon sans penser à rien d'autre. Mais soudain le vieillard releva la tête et aperçut Nekhludov. « Nekhludov » cria-t-il, « vous ne voulez pas vous rafraîchir ?» Pour le voyage, c'est indispensable. Nekhludov remercia d'un signe de tête. Eh bien, que vas-tu faire? Reprit Nathalie Ivanovna. Ce que je pourrai. Je sens en tout cas que je dois faire quelque chose. Et ce que je pourrai, je le ferai. Oui, oui, je te comprends. Et avec eux, dit-elle en désignant Korchagin, est-ce que tout est fini? Tout. Et à ce que j'imagine, sans regret de part ni d'autre. C'est dommage, grand dommage. J'aime tant Missy. Enfin, je n'ai rien à dire. Mais pourquoi veux-tu te lier de nouveau? Demanda-t-elle timidement. Pourquoi pars-tu? Je pars parce que je le dois, répondit Nekhludov d'un ton sérieux et sec, comme s'il eût voulu couper court à l'entretien. Mais aussitôt, il se reprocha cette attitude à l'égard de sa sœur. « Pourquoi ne pas lui dire tout ce que je pense » songea-t-il. « Je sais bien qu'Agrippine Petrovna nous écoute, mais bah, qu'elle entende aussi. »« Tu me parles de mon projet de mariage avec Katyusha, » s'écria-t-il d'une voix frémissante. « Eh bien, c'est vrai que j'ai formé ce projet. Et dès le premier jour où je l'ai retrouvé. Mais elle, nettement et résolument, elle a refusé de se marier avec moi. Et elle ne veut pas de mon sacrifice. Elle préfère se sacrifier elle-même. » Car son mariage, dans la situation où elle est, aurait pour elle bien des avantages. Mais moi, je ne puis pas admettre qu'elle se sacrifie. Et maintenant, je pars avec elle. Et où elle ira, j'irai. Et de toutes mes forces, j'essaierai de l'aider, d'adoucir son sort. Nathalie Ivanovna ne répondit rien. La vieille gouvernante, hochant la tête d'un air désolé, regardait tour à tour Nekhludov et sa sœur. En cet instant, sur la porte du salon des dames, se montra de nouveau le solennel cortège. Le beau valet de chambre, Philippe, et le portier à la casquette galonnée, emportaient la vieille princesse pour la mettre dans son wagon. Parvenue au milieu de la salle, la vieille dame arrêta les porteurs, fit signe à Nekhludov de s'approcher d'elle, et lui tendit craintivement sa main blanche, chargée de bagues, comme pour l'inviter à ne la serrer qu'avec précaution. « Quelle épouvantable chaleur » dit-elle. « C'est un supplice pour moi. Ce climat me tue. » Quand elle eut fini de se plaindre du climat et de sa santé, elle fit signe au porteur de se remettre en route. « Vous viendrez nous voir à la campagne, sans faute, n'est-ce pas ? » dit-elle à Nekhludov, en retournant vers lui son long visage, avec un sourire de ses fausses dents. Nekhludov s'avança sur le quai. Le cortège de la princesse se dirigeait à droite, vers les wagons de première classe. Nekhludov alla de l'autre côté, en compagnie de Taras, le mari de Fedosia, portant son sac sur l'épaule. Un commissionnaire les suivait, tenant en main le bagage de Nekhludov. « Tiens, voici mon compagnon de route, » dit Nekhludov à sa sœur en lui désignant Taras, dont il venait de lui raconter l'histoire. « Comment ? Est-ce que tu vas voyager là-dedans ? » demanda Nathalie Ivanovna, en voyant son frère s'arrêter devant une voiture de troisième classe et faire signe au commissionnaire d'y monter ses valises. « Mais oui, cela m'est plus agréable. Et puis je tiens à être avec ce brave homme, » répondit-il. « Écoute encore ceci, » reprit-il après un instant de silence. « Mes terres de Kouzminskoye, je ne les ai pas données aux paysans, de telle sorte que si je meurs, elles reviendront à tes enfants. »« Dimitri, par grâce, ne me parle pas de cela, » dit Nathalie Ivanovna. « Et si je me marie, eh bien tout de même, comme je n'aurai pas d'enfants, je t'en supplie, ne me parle pas de cela, » répéta Nathalie Ivanovna. Mais Nekhludov vit dans ses yeux que ce qu'il venait de lui dire lui avait fait plaisir. À l'autre extrémité du wagon, un groupe de curieux s'était formé devant le coupé où venait d'entrer la princesse Korchagine. Mais presque tous les voyageurs s'étaient déjà installés à leur place. Quelques attardés couraient, enjambaient les marches. Les conducteurs fermaient les portières. Nekhludov entra dans le wagon et se mit à la fenêtre. Nathalie Ivanovna restait debout sur le quai, en compagnie d'Agrippine Petrovna. Gênée de se trouver là, avec son élégante toilette et son chapeau à la dernière mode, elle cherchait évidemment un sujet de conversation, et ne le trouvait pas. Elle ne pouvait pas demander à son frère de lui écrire, car depuis longtemps déjà, toute correspondance régulière avait cessé entre eux. Et puis, c'était comme si l'entretien sur la question d'argent et d'héritage avait achevé de rompre ce qui restait entre eux de relations fraternelles. Ils se sentaient désormais définitivement étrangers l'un à l'autre. Et ainsi, Nathalie Ivanovna fut heureuse au fond de son cœur quand le train s'ébranla, et qu'elle put dire à son frère, avec un signe de tête et un sourire, « Adieu, adieu, Dimitri !» Et dès que le train se fut éloigné, elle ne pensa plus qu'à la façon dont elle raconterait à son mari tous les détails de sa conversation. Nekhludov, lui aussi, bien qu'il n'éprouvât pour sa sœur que de bons sentiments, bien qu'il n'eût absolument rien à lui cacher, s'était senti gêné devant elle et avait eu hâte d'en être séparé. Il avait conscience que rien ne subsistait plus de cette Natacha qui lui avait jadis été proche. Sa sœur, désormais, ne pouvait plus lui apparaître que comme l'esclave d'un gros homme noir qui le dégoûtait, et il avait vu trop clairement que le visage de la jeune femme ne s'était animé et illuminé que quand il lui avait parlé de ce qui intéresserait son mari, de la remise de ses terres aux paysans, de sa succession. Et une profonde tristesse lui remplissait le cœur. Dans le grand wagon de troisième classe, plein de voyageurs et exposé au soleil depuis le matin, la chaleur était si insupportable que Nekhludov, à peine assis, dut se relever et se tenir debout sur la plateforme extérieure. Mais là encore, on étouffait, et Nekhludov ne put respirer librement que lorsque le train eut fini de se pousser parmi les maisons et fut parvenu au plein air des champs. « Assassin, assassin !» se disait-il, se rappelant son entretien avec sa sœur au sujet des prisonniers. Et, de toutes les impressions qu'il avait éprouvées depuis le matin, une seule le hantait. Il revoyait, avec une précision et une intensité extraordinaires, le beau visage du second mort, avec ses lèvres souriantes, son front sévère et sa petite oreille finement dessinée, apparaissant sous le crâne rasé d'un côté. « Mais ce qui est particulièrement affreux, se dit-il, c'est que ces infortunés ont été tués sans que l'on puisse savoir qui les a tués. Ils ont été conduits à la gare, comme tous les autres prisonniers, sur un ordre écrit de Maslennikov. Mais Maslennikov, évidemment, s'est borné à remplir une formalité. On lui a apporté à signer une pièce rédigée dans les bureaux. L'imbécile y a apposé son plus beau paraphe, sans même s'inquiéter de ce qui y était écrit. Et pour rien au monde, il ne consentirait à se croire responsable des accidents qui viennent d'arriver. Encore moins pourra-t-on en rendre responsable le médecin de la prison, qui a passé en revue les déportés avant leur départ. Celui-là a ponctuellement rempli ses obligations professionnelles. Il a mis à part et fait monter en voiture les prisonniers malades et, sans doute, il n'a point prévu qu'on ferait marcher le convoi en plein midi par cette chaleur, en foule compacte. Le directeur n'a fait, lui aussi, qu'exécuter les ordres de ses chefs. Comme ceci le lui a ordonné, il a fait partir, à la date fixée, un nombre déterminé de prisonniers. Tant d'hommes, tant de femmes. Impossible également d'accuser le chef du convoi. On lui a ordonné d'aller chercher les prisonniers dans un certain endroit et de les conduire dans un certain autre. C'est ce qu'il a fait, du mieux qu'il a pu. Il a dirigé le convoi d'aujourd'hui comme la fois dernière. Et lui non plus ne pouvait guère prévoir que des hommes robustes et valides, comme les deux que j'ai vus, ne supporteraient pas la fatigue et mourraient en chemin. Personne n'est coupable. Et cependant, ces infortunés ont été tués. Et tués par ces mêmes hommes qui ne sont point coupables de leur mort. Et cela provient, se dit ensuite Nekhludov, de ce que tous ces hommes, gouverneurs, directeurs, officiers de paix, sergents de ville, tous ils estiment qu'il y a des situations dans la vie où la relation directe d'homme à homme n'est pas obligatoire. Car tous ces hommes, depuis Maslennikov jusqu'au chef de convoi, s'ils n'étaient pas fonctionnaires, auraient eu 20 fois l'idée que ce n'était pas chose possible de faire marcher un convoi par une telle chaleur. 20 fois en chemin, ils auraient arrêté le convoi, et voyant qu'un prisonnier se sent mal, perd le souffle, il l'aurait fait sortir des rangs, l'aurait conduit à l'ombre, lui aurait donné de l'eau, et, en cas d'accident, il lui aurait témoigné de la compassion. Mais ils n'ont rien fait de tout cela. Ils n'ont pas même permis à d'autres de le faire. Et cela parce qu'ils ne voyaient pas devant eux des hommes et leurs propres obligations d'hommes à leur égard, mais seulement leur service, c'est-à-dire des obligations qui, à leurs yeux, les dispensaient de tout rapport direct d'homme à homme. Nekhludov était si plongé dans ses réflexions qu'il ne s'était pas aperçu que le temps avait changé. Le soleil s'était couvert d'épais nuages bas. Et du fond de l'horizon, à l'ouest, arrivait peu à peu une nuée grise qui déjà se répandait sur les champs et les bois en une pluie pressée. Un souffle de pluie déjà remplissait l'air. Par instants, la nuée se sillonnait d'un éclair, et au fracas des wagons en marche se mêlait le fracas d'un tonnerre lointain. Et sans cesse, la nuée se rapprochait, et de larges gouttes de pluie, chassées par le vent, venaient s'étaler sur le veston de Nekhludov. Il passa de l'autre côté de la plateforme, et, aspirant de tous ses poumons la fraîcheur du vent et l'odeur bienfaisante de la terre avide de pluie, il considéra les jardins, les bois, les champs de seigle jaunes, les champs d'avoine encore verts, et les taches noires des plants de pommes de terre. Tout, subitement, s'était comme garni d'une couche de laque. Le vert était devenu plus vert, le jaune plus jaune, le noir plus noir. Encore, encore, s'écriait volontairement Nekhludov, partageant l'allégresse des champs et des jardins au contact de la pluie. Et en effet, la pluie se fit plus forte, mais elle dura peu. La nuée sombre, après s'être en partie déversée, se transporta plus loin. Et sur le sol mouillé ne tombèrent plus que de petites gouttes molles et espacées. Le soleil reparut, tout s'illumina de nouveau. Et à l'horizon, du côté de l'ouest, se montra un petit arc-en-ciel où dominaient les teintes violettes. « À quoi donc pensais-je tout à l'heure ?» se dit Nekhludov, quand tous ces changements eurent pris fin et que le train se fut enfoncé dans une profonde tranchée, ne permettant plus de contempler les champs. Ah oui, je pensais à la façon dont ce directeur, ce chef du convoi, dont tous ses fonctionnaires, hommes pour la plupart, bons ou inoffensifs, se trouvaient transformés en des hommes méchants. Et Nekhludov se rappela l'indifférence avec laquelle Maslennikov avait écouté le récit de ce qui se passait dans la prison. Il se rappela la sévérité du directeur, la dureté du chef du convoi, qui laissait souffrir sans assistance une femme en couche. Tous ces hommes sont évidemment impénétrables aux sentiments de l'humanité, comme sont impénétrables à la pluie les pierres de cette tranchée, songeait-il en considérant les revêtements de pierre le long desquels l'eau goûtait jusqu'aux rails du wagon. Et peut-être est-ce chose indispensable de creuser les tranchées et de les revêtir de pierre. Mais on souffre à voir cette terre privée de la pluie qu'elle attend. Cette terre qui aurait si bien pu, elle aussi, produire du blé, de l'herbe, des buissons et des arbres. Et de même il en est avec les hommes. Tout le mal vient de ce que les hommes croient que certaines situations existent où l'on peut agir sans amour envers les hommes, tandis que de telles situations n'existent pas. Envers les choses, on peut agir sans amour. On peut sans amour fendre le bois, battre le fer, cuire des briques, mais dans les rapports d'homme à homme, l'amour est aussi indispensable que l'est par exemple la prudence dans les rapports de l'homme avec les abeilles. La nature le veut ainsi. C'est une nécessité de l'ordre des choses. Si l'on voulait laisser de côté la prudence quand on a affaire aux abeilles, on nuirait aux abeilles et on se nuirait à soi-même. Et pareillement, il n'y a pas à songer à laisser de côté l'amour quand on a affaire aux hommes. Et cela n'est que juste. Car l'amour réciproque entre hommes est l'unique fondement possible de la vie de l'humanité. Sans doute un homme ne peut pas se contraindre à aimer comme il peut se contraindre à travailler. Mais de là ne résulte point que quelqu'un puisse agir envers les hommes sans amour, surtout si lui-même a besoin des autres hommes. L'homme qui ne se sent pas d'amour pour les autres hommes, qu'un tel homme s'occupe de soi, de choses inanimées, de tout ce qui lui plaira, excepté les hommes. De même que l'on ne saurait manger sans dommage et avec profit que si l'on éprouve le désir de manger, de même on ne peut agir envers les hommes sans dommage et avec profit si l'on ne commence point par aimer les hommes. Permets-toi seulement d'agir envers les hommes sans les aimer, comme tu as fait hier envers ton beau-frère, et il n'y a point de limite à ce que ta dureté pourra faire de mal. Oui, oui, c'est ainsi. Oui, cela est vrai, se répétait Nekhludov, joyeux à la fois d'avoir retrouvé un peu de fraîcheur après l'épouvantable chaleur qui l'avait accablé, et d'avoir fait un pas de plus vers la solution du problème moral qui le préoccupait.